Beurre FM, au cœur des quartiers.
Aujourd'hui, dans Au cœur des quartiers, nous partons dans les cités d'Amiens, puis Bobigny, puis Aubervilliers, Sevran, dans le 93, à la rencontre de Khaled Miloudi, écrivain, poète, conférencier, au destin à peine croyable, de la prison à l'écriture, une passion que tu t'es découvert assez tard et puis qui te fait vibrer aujourd'hui. Bonjour Khaled.
Bonjour Mouna.
Très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans Au cœur des quartiers. J'ai hâte qu'on puisse te découvrir un peu plus. C'est vrai qu'on t'avait reçu sur Beurre FM pour parler de ce livre que tu as écrit, qui retrace un peu ton parcours. Et aujourd'hui, on va le retracer dans Au cœur des quartiers. On va commencer déjà tout d'abord par ton enfance. À quoi elle ressemblait, cette enfance?
Alors, c'était une enfance singulière. Nous sommes arrivés d'Algérie. J'avais 5 ans, en 65. Nous avons passé 7 mois dans les camps, donc dans le camp de Rivesaltes. Et puis après, il y a eu de très nombreux déménagements successifs au gré des vicissitudes familiales et des travails de mon père qu'il avait du mal à trouver puisqu'il est analphabète. Donc c'était la maçonnerie, c'était vraiment du travail à l'huile de coude. Et après de nombreux déménagements, nous sommes arrivés, après avoir fait tout le sud de la France, nous sommes arrivés à Amiens, dans une cité, la cité d'Étouvie. Et là, c'est là que c'est pour la première fois je rencontrais les difficultés de vivre dans une cité. À l'époque, il y avait aussi du racisme, j'hésite pas à en parler. Il y avait surtout le dimanche, le jour de chasse, il y avait pas mal de ratonnades. Les consignes nous étaient données de ne pas rester dans l'hall le dimanche matin. J'ai connu très tôt l'école de la rue, la délinquance alimentaire puisque j'avais été placé en famille d'accueil et puis après en foyer, la découverte de la boxe, une autre école de la vie avec sa morale, sa discipline et ses valeurs. Et j'ai pu reprendre, suite à ma première peine de prison, j'ai repris un cursus scolaire. J'avais arrêté l'école à la moitié de la troisième. Et de mon côté, j'ai repris un cursus universitaire beaucoup plus tard, sur ma dernière peine de prison, donc j'en parle dans mon livre Les couleurs de l'ombre. Mais avec du recul, je me dis que j'ai évité de reproduire ce que moi j'ai vécu et ce que mes parents, notamment mon père, ont vécu avec mes propres enfants, en leur disant surtout qu'ils étaient légitimes partout, que c'est pas parce qu'ils avaient des prénoms maghrébins et une couleur de peau différente, qu'ils étaient pas légitimes aussi à postuler professionnellement parlant dans n'importe quel corps de métier. Chose que nous, les anciens, la deuxième génération, on s'interdisait. Quelque part, il y avait comme une chape de plomb. On n'osait pas sortir un peu de nos jardins, de la pelouse, du ring de boxe.
Cette première peine de prison, tu avais quel âge?
J'avais 19 ans.
19 ans, donc à peine majeur et déjà en prison. Et je peux te demander pourquoi?
J'ai été incarcéré pour une bagarre suite à la sortie d'une boîte de nuit, une bousculade, des insultes racistes à mon égard. J'ai frappé deux personnes. Je me suis fait arrêter en flagrant délit. Je suis passé en comparution immédiate le lendemain. J'étais condamné à un an ferme. J'ai fait appel de cette décision que j'acceptais pas. J'étais condamné, elle a été aggravée à 18 mois. Et dans cette prison à grande échelle qui est l'ogresse de Fleury-Mérogis, j'avais le sentiment profond que le monde entier était contre moi. Parce que je pense qu'avec du recul, un virage raté dans mon parcours. Je pense qu'une enquête sociale aujourd'hui, quand j'interviens dans les lycées pour transmettre et puis pour animer des ateliers d'écriture et de poésie, et quand j'ai la chance de rencontrer des magistrats ou des gens qui font les lois, de faire passer le message, que voilà, une enquête sociale aurait permis de voir qu'effectivement c'est pas une peine de prison dont j'avais besoin. J'étais déjà déscolarisé, désocialisé et en carence affective. Mon casier judiciaire était vierge et ma place à cette époque-là n'était pas en prison.
C'était de l'aide dont tu avais besoin.
Plus besoin d'avoir une main tendue plutôt qu'une incarcération à grande échelle dans une prison comme Fleury-Mérogis à l'époque.
Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu as basculé véritablement dans la délinquance et ce qui a provoqué aussi des années et des années de prison par la suite?
Oui, bien sûr. Ça, quand j'ai écrit mon manuscrit avec du recul, je l'ai compris que tout venait de là, tout est parti de là. Jusqu'à l'âge de 19 ans, j'avais aucun problème en dehors de la délinquance alimentaire, mais j'avais aucun problème avec la justice. Et dans cette prison, la prison à l'ancienne, on était tous habillés pareil, donc c'est un peu, pour imaginer un peu un cliché en noir et blanc, tout droit sorti du goulag. On était tous habillés pareil, on tournait en rond, on était 500 dans la cour le week-end. La violence était un peu la maîtresse de tous ces mots et de tous ces hommes. Et j'étais reconnu par des anciens qui ont vu en moi un jeune téméraire, courageux, intrépide et déterminé. Je leur donnais des leçons de boxe. Et à ma sortie de prison, j'ai été les rejoindre. Ils m'avaient donné une adresse dans un bar. J'ai été les rejoindre sur Bastille. Et à partir de là, j'ai mis le pied dans le grand banditisme.
Et qu'est-ce qui s'est passé du coup par la suite?
Je me suis mis à braquer des banques au début et puis après des fourgons blindés. Et bon, voilà, j'avais vraiment le sentiment d'être enfermé dans une espèce de spirale de laquelle je suis sorti à l'âge de 52 ans, un jour quand je me suis découvert un cerveau. Et dans cette cellule, j'étais face à deux choix, c'était la corde ou la plume. Et là, j'aurais donné tout l'or du monde pour pouvoir me réveiller le matin avec des enfants, puisque je suis père de famille. Je suis grand-père aussi. Et d'un seul coup, j'ai compris qu'en fin de compte, moi, c'est pas l'argent qui m'intéressait, mais c'était l'humain, que j'étais prêt à donner tout l'or du monde pour retrouver mes enfants.
Et la justice t'avait déçu puisqu'ils t'ont mis en prison alors que ce n'était peut-être pas mérité. Et en prison, tu as rencontré des personnes qui te tendaient la main, des personnes peut-être qui étaient te donner une sorte d'amitié et tu cherchais cruellement cette chose.
Non mais tout à fait, Mina. Tout à fait, je pense que c'est des points importants. Ils m'ont non seulement reconnu, mais ils m'ont accepté comme l'un des leurs. Et pour la première fois, j'avais le sentiment de retrouver comme une famille. J'étais reconnu et on sait aujourd'hui même à nos âges que la reconnaissance est quelque chose d'important parce qu'on vit aussi par rapport aux autres, on existe aussi dans le regard des autres. Donc au-delà de l'amitié ou du copinage, il y avait une forme de fraternité qu'on partageait. J'avais trouvé comme des grands frères. Pourquoi ? Parce que quand on souffre dans des moments de souffrance, quand il y a des mains tendues, peu importe derrière, peu importe quels sont les faits que cette main tendue a fait, ce que vous voyez c'est cette main bien ouverte qui vous prend et qui vous sert. Et c'est ce que j'essaye aussi de transmettre quand je vais à Bobigny, par exemple, au lycée Louis-Michel, qui est en zone éducative prioritaire. Voilà, il y a certains jeunes, sur les 30 que j'ai dans les classes, il y a certains jeunes, il y en a toujours deux ou trois, ou des fois un, qui sont sur le fil du rasoir et qui se posent la question, est-ce que je continue les études, est-ce que ça vaut le coup, ou est-ce que je vais aller dealer en bas de chez moi, ou est-ce que je vais prendre une arme pour aller braquer. Et là, quelque part, voilà, je sais que mon travail est là, mon rôle est là, très humblement, essayer de le cerner avec des punchlines, faire toucher du doigt un peu ce que c'est une cellule. Donc des fois, je les mets en immersion, je les amène justement à cette finalité, la prison, pour qu'ils passent à autre chose et qu'ils se rendent compte que la vie, c'est pas l'argent. Et Dieu merci, à 52 ans, je me suis découvert un cerveau, comme je te disais tout à l'heure, et je suis revenu à l'essentiel.
Et quand tu as rencontré la littérature ?
Je l'ai rencontré dans cette cellule, justement, entre la corde et la plume. Il y avait un petit calepin à l'isolement, j'étais à l'isolement. Et pendant plusieurs jours, je me voyais partir, je me préparais psychologiquement à partir de l'autre côté. Et il s'est passé quelque chose, je me suis mis à pleurer, et plus je pleurais, plus mes larmes me rafraîchissaient, me réveillé. Il s'est passé comme une voix intérieure, un bruit de l'âme. Et je me suis jeté sur ce calepin et les premiers mots que j'ai écrits en phonétique, en arabe, étaient Nebrekum, Nebrekum, Nmutalekum. Je vous aime, je me meurs sans vous. Et là, voilà, il s'est passé quelque chose et je me suis dit, en fin de compte, j'ai pas reproduit la violence que moi j'avais subie, mais c'était aussi, j'avais compris, touché du doigt ce jour-là, qu'un père absent, c'était aussi une forme de violence envers ses enfants. Donc un sentiment de culpabilité qui atteignait son paroxysme en me disant, mais j'aime mes enfants profondément, j'aime mes enfants viscéralement, et en fin de compte, c'est moi qui les fais souffrir de mon absence. Et lors d'un parloir, il retenait un sanglot étouffé et il m'a dit à vile peinte, papa, nous c'était pas des cadeaux qu'on voulait, c'était pas de l'argent, tu nous as gâtés mais c'est pas ça. Et avec des larmes retenues, il m'a dit, moi ce que je voulais c'est que tu viennes nous chercher à la sortie de l'école. Et là en fin de compte, je me suis rendu compte que le sage c'était lui et l'idiot c'était moi. Et je suis reparti dans ma cellule complètement bouleversé. Et là j'ai fait un travail sur moi-même et j'ai tout mis sur la table en reconnaissant mes propres erreurs, mes mauvais choix. Je vais pas partir, je ne veux pas être le boulet de mes propres enfants. Je vais assumer ma peine et puisqu'elle n'a pas 30 ans avec 20 ans de sûreté, c'est une peine... On peut pas se projeter. Je me suis dit, c'est moi qui vais donner un sens à ma peine. Et bien sûr, la littérature a été comme une fenêtre, est devenue comme une fenêtre sur la liberté. Ma cellule, c'était les abysses de l'enfer, elle est devenue une bulle d'oxygène. Et j'étais pressé que cette porte se ferme, que ces verrous claquent, pour être enfin tranquille, pour pouvoir écrire. Et j'aimais beaucoup le matin aussi, je me levais de bonne heure, puisque la prison, c'est un endroit bruyant. Pour écrire, il faut s'accrocher. Il y a pas mal de boules qui est. Du coup, je me levais vers 4h, 4h30 du matin. Et j'aimais bien ces moments de c'était des petites pépites de liberté. Le silence était là, la prison était endormie. Et je pouvais laisser glisser mon bic sur la feuille blanche dans les brumes de l'aube. Donc pendant 10 ans, c'est ça qui m'a porté. Et le sport, bien sûr, je faisais 6 à 8 heures de sport par jour. Comme j'étais classé DPS, détenu particulièrement signalé, j'avais un régime spécial, comme la plupart des DPS. Je changeais de cellule tous les 15 jours et j'étais transféré tous les 6 mois. Donc j'avais plein d'interdictions qui m'empêchaient justement de sortir justement de moi-même et d'essayer de me bonifier, de grandir de l'intérieur. Et à l'inverse, quand en centrale c'est pareil. En centrale, il n'y a pas de centre scolaire. On peut avoir des génépistes. À l'époque, c'était les génépistes. On avait une étudiante comme ça qui venait le samedi matin pour nous faire une heure ou deux heures d'anglais. Mais c'est tout seul, comme un autodidacte, que j'ai lu et que j'ai commencé à écrire. Et vraiment, j'ai pu rentrer dans un centre scolaire en 2013, 2014, 2015 à la centrale de Poissy. Là, j'ai pu reprendre un cursus universitaire et j'ai passé un bac L. Et après, j'ai passé une licence de littérature et de théâtre, et j'ai eu une mention. Donc je l'ai passé très tard, mais justement, ça ouvre l'espoir à tous les jeunes que je rencontre en leur disant, voilà, moi, si à 52 ans, je me suis découvert un cerveau, tout est ouvert pour vous, quoi.
Et aujourd'hui, tu es poète, tu es écrivain, tu as écrit ton propre livre, Les couleurs de l'ombre. Tu parles justement de... Tu retraces un peu cette vie difficile que tu as eue, mais tu montres aussi comment tu t'en es sorti. C'est un espoir pour les jeunes, c'est ce que tu dis. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es fier de ton parcours ?
Je crois que la fierté, je la mettrai dans mon humilité, dans cette humilité qui m'habite par rapport à mon âge et puis par rapport à mon parcours. Ne jamais fanfaronner, être toujours dans l'humilité. Je crois que quand on est entier et humble, c'est comme ça qu'on crée du lien avec les autres. Je le vois dans les ateliers que j'anime. Moi-même, je suis le premier surpris. Même, je peux dire, je suis comme un privilégié parce que je suis émerveillé de voir qu'en 2 heures, j'ai pu créer du lien avec des jeunes qui ne connaissaient pas. Je les fais écrire, donc je ne me contente pas seulement de parler, je les fais écrire. Et après, je leur donne des thèmes et je les fais écrire pendant 3 quarts d'heure avant qu'ils viennent au tableau pour lire leur texte. Pour ceux qui sont d'accord pour le libre, parce que j'ai une souplesse aussi, ceux qui ne veulent pas partager avec en classe, ils ont le droit de ne pas le faire, parce que ce n'est pas toujours facile, que ce soit en prison ou même à l'école, dans les lycées, de se lever et de lire des choses intimes devant ses collègues. Et j'essaie de leur transmettre justement tous ces points d'accroche ou tous ces mauvais choix, toutes ces facilités. Comme on dit, voilà, cette expérience, voilà, mon expérience, je la mets très humblement. Le rôle que j'ai à jouer, c'est tout simplement très humblement le mien.
Dans Au cœur des quartiers, Khaled, on a une petite séquence qui s'appelle Les yeux dans les yeux. Mais j'ai l'impression que toute cette interview, c'est vraiment sans fausseté et sans mensonge que je t'écoute parler et que tu te livres totalement. J'ai quand même une petite question à te poser dans le cadre de cette petite séquence. Est-ce qu'il y a une personne, si tu pouvais me citer une personne qui t'a aidé à y croire et à te battre et qui a été avec toi du début jusqu'à... Bah, aujourd'hui, j'ai pas envie de dire la fin parce que ton parcours, j'espère, sera encore long et beau. Mais qui est cette personne qui a toujours été près de toi, à côté de toi et qui a toujours cru en toi?
Aude Siméon, c'était ma prof justement de littérature et de théâtre. J'ai rencontré en 2013, j'ai poussé la porte du centre scolaire parce que pour moi, un centre scolaire, même dans une prison, ça restait un sanctuaire. J'avais déjà cette idée-là. Et quand j'ai poussé la porte, j'ai vu une bourgeoise en tailleur Chanel, maquillée, parfumée. Je me suis mis au bout de la classe et moi-même, j'ai eu des préjugés sur elle en me fiant à l'apparence. Et elle nous a fait lire comme ça, elle nous donnait des textes à lire. Elle nous a fait lire un texte d'Albert Camus, donc Caligula. Et à la fin du cours, elle m'a demandé de rester et elle m'a dit... « Monsieur, vous lisez très bien, j'ai rarement entendu quelqu'un lire comme vous. Vous avez quelque chose dans la voix, dans la façon dont vous lisez. » Voilà, je lui dis que je commençais à lire, que j'aimais la littérature. Donc elle m'a demandé de m'inscrire à son cours. Et je sais pas, rien que ce petit compliment, ça m'a conforté dans le fait, on me l'avait dit autour de moi, mais voilà, c'était quand même une prof. Et je suis revenu le lendemain. Et j'ai pas raté un cours. Et après, on a monté cette pièce. Donc on a joué Caligula. Elle m'a proposé de jouer le rôle de Caligula parce que j'étais capable d'assimiler du texte. Et incroyable, quoi. Pendant un an, en dehors des cours scolaires, j'ai aidé mes co-détenus à apprendre leur texte. Donc j'étais sur tous les fronts, au parloir. Quand ma nièce ou ma petite nièce venait, ou des amis, je leur donnais mes textes et puis je jouais Caligula puisque j'avais besoin d'un retour. Et au bout d'un an, on a joué la pièce. Elle a été sollicitée, presbybitée, qu'on l'a jouée 2 fois. Et cette prof, c'est devenue une amie parce qu'après mon transfert, elle a cru en moi, elle me glissait des mots quand j'étais dans des périodes de doute parce que j'étais en conflit parfois avec l'administration pénitentiaire qui voyait d'un mauvais œil le DPS jouer le rôle principal. Et ils ont essayé de nous mettre des bâtons dans les roues pour que ce projet capote, mais on l'a pas lâché, on a serré les coudes. Je crois que c'était la plus belle victoire qu'on a eue de l'intérieur. Quand j'étais transféré, on a commencé une correspondance épistolaire pendant 7 ans. J'ai gardé ces courriers, peut-être qu'un jour je les publierai dans un bouquin. Donc, Aude Siméon.
On est énormément écouté par des jeunes, par des personnes qui se sont peut-être parfois senties discriminées, rejetées par la société. On est aussi écouté en prison. Qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes ces personnes qui sont en train de nous écouter et qui ont envie de s'en sortir mais qui ont plus espoir?
Gardez le désir de vivre, l'ardeur de votre pensée et la fringale des rencontres. Sentez-vous légitime partout. Et pour ceux qui sont à l'intérieur, voilà, continuez de croire aux couleurs de l'espoir.
Merci beaucoup, Khaled Milioudi. J'étais ravie de te recevoir aujourd'hui. J'espère que beaucoup de personnes qui passeront par là aujourd'hui, que ce soit en podcast ou sur la matinale de Beurre FM, auront quelque chose à prendre de ton parcours et de ton discours ce matin. Merci beaucoup.
C'est moi qui te remercie, Mona.
C'était Au cœur des quartiers, avec le soutien du ministère chargé de la ville.